RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. En cette journée mondiale de l'eau, j'ai peur de ne pas avoir une bonne nouvelle. Les journées mondiales se suivent et la qualité de cette ressource vitale se dégrade. Cette année, le thème est l'eau et la paix. L'année dernière, c'était l'eau et la pollution plastique. Que s'est-il passé en un an ? Quasiment rien. Ah si, les réunions pour un projet de traité mondial contre la pollution plastique ont commencé. Elles devraient aboutir fin 2024. Je ne vous cache pas que nous sommes un peu inquiets sur l'ambition de ce traité, mais nous vous tiendrons au courant. En attendant, les chiffres sont effrayants. Nous produisons chaque année 460 millions de tonnes de plastique. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Et si nous ne faisons rien, cette quantité va tripler. Or, les deux tiers de ce plastique servent à fabriquer des objets qui deviennent rapidement des déchets. Les chiffres officiels nous indiquent qu'à peine 10% sont recyclés, 20% sont incinérés et la moitié finit dans des décharges plus ou moins contrôlées. Si vous me suivez, 20% des plastiques que nous produisons, soit tout de même 92 millions de tonnes, sont dispersés chaque année dans la nature et terminent sous forme de microplastiques dans les cours d'eau puis dans l'océan. C'est un scandale sanitaire et environnemental. Pour en percevoir la réalité, nous vous proposons de nous suivre dans ce reportage à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Je suis M. Ouattara Alassane, je suis professeur à l'Université Nangui-Abrogoua. Je suis du laboratoire d'environnement et de biologie aquatique de l'UFR des sciences et gestion de l'environnement. Je suis coordinateur du projet PADI, qui signifie Plastique d'Abidjan, Devenir Impact. C'est un projet financé par l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, dans sa catégorie GEAI, c'est-à-dire jeune équipe associée.
Et donc, en quoi consiste ce projet ?
Alors, ce projet vise à acquérir un certain nombre de connaissances pour mieux permettre aux populations d'appréhender l'impact du plastique dans la ville d'Abidjan. Il a différents volets. Le premier volet, d'abord, c'est de comprendre les différentes catégories de plastique qu'on retrouve dans l'environnement de la ville d'Abidjan. Première chose, c'est la question de séquestration du plastique dans les sédiments, dans les sables de plage. C'est la question, j'allais dire, du biofilm des organismes qui vivent sur les plastiques, parce que les plastiques deviennent donc ce qu'on appelle les plastisphères, un environnement favorable au développement. Ce sont des micro-organismes, certains sont pathogènes. Il s'agit aussi d'appréhender la dérive du plastique depuis le continuum rivière, lagune, mer, qui échoue donc au niveau, j'allais dire, du littoral et au niveau des zones marines. Et il s'agit aussi de voir l'impact de ces plastiques-là sur la pêcherie.
Et alors, globalement, quelle est l'ampleur du problème ?
Alors, en termes de quantité, les données que nous disposons, c'est environ 200 tonnes de macro-déchets qui sont produits, j'allais dire, dans la ville d'Abidjan, sur les 200 tonnes par jour. Sur les 200 tonnes, en termes de volume, le plastique constitue 80%. C'est-à-dire que dans les ordures ménagères qu'on a, les macro-déchets, il y a un mélange qui est fait et le plastique constitue 80%. De ce déchet-là.
Oui, donc là, on voit l'ampleur du problème. Alors, pour prendre conscience de l'ampleur de ce problème, nous allons tout de suite aller au marché, parce que c'est l'un des lieux d'où partent beaucoup de plastiques.
Effectivement, les plastiques sont produits, les déchets plastiques, on les a partout. Il suffit de voir aux entrées et aux sorties des villes du territoire, on a des déchets partout, et surtout les plastiques à usage unique.
Donc on va au marché pas trop loin, à côté d'ici ?
Mais on va visiter donc le marché d'Anono à la Riviera.
On prend la voiture ?
Oui, on prend la voiture. Merci.
Alassane, il faut savoir conduire ici, hein, Abidjan.
Effectivement, il faut savoir conduire parce qu'on a tellement d'embouteillages que chaque fois que vous avez rendez-vous, il faut partir plus tôt et se dire que je dois affronter l'embouteillage.
Et puis c'est un peu sportif aussi, hein ?
Ben oui, il faut pouvoir chaque fois avec les pieds, avec les mains, se mettre, j'allais dire, en mouvement pour pouvoir être dans la bonne conduite.
Ah là, on voit des femmes qui balaient sur le côté de la route. On ne voit pas beaucoup de sachets plastiques. C'est parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations ?
Effectivement, je pense que le ministère en charge de la salubrité a essayé de rendre la ville, j'allais dire, un peu plus reluisante. Et son département a essayé de mobiliser un certain nombre d'acteurs pour rendre les villes propres et les plages aussi. Et donc là, vous voyez la NAGED qui est en charge donc, de la salubrité de la ville d'Abidjan. Donc, il essaie de nettoyer, les rues et un certain nombre de lieux.
Ça n'a pas donné de bonnes habitudes ?
On espère qu'on pourra inscrire ces activités dans la durée pour que ce soit pérennisé.
Nous voilà arrivés. Alassane, nous avons rendez-vous avec quelqu'un ici au marché ?
Oui, nous avons rendez-vous avec le docteur Koumi Rachel, qui est membre du projet Plastique d'Abidjan Devenir et Impact, qui est en charge de l'animation réflexive.
Animation réflexive, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'échanger avec tous les acteurs, tous les partenaires, pour recueillir les avis et pour pouvoir réfléchir ensemble à des solutions, pour transformer les solutions en action.
Je m'appelle Rachel Koumi, je suis chercheure au Centre de recherche océanologique d'Abidjan sur le projet PADI avec le professeur Alassane Ouattara.
Et quel est votre rôle au sein de ce projet ?
L'animation, la mise en relation, créer des groupes de discussion avec les outils d'intelligence collective, l'innovation ouverte pour définir le véritable problème, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, discuter, chercher des solutions et voir comment on peut agir ensemble.
Et là, nous allons donc nous promener dans le marché pour voir justement où se trouvent les plastiques.
Nous allons entrer dans le marché, faire un tour du marché pour que vous voyez la relation entre les Ivoiriens et l'usage du plastique. Et même dans le marché, vous pouvez voir à terre que vous aurez des déchets plastiques à terre. Vous allez voir les emballages, le conditionnement, l'usage du plastique dans tout ce qui est alimentation, dans tout ce qui est transport, emballage, le comportement de l'Ivoirien avec le plastique au quotidien. Vous voyez, c'est le geste au quotidien que nous faisons avec le plastique. Dès que nous finissons d'utiliser, il se retrouve à terre.
Là, on voit un sachet de barre chocolatée et un petit sachet en plastique de jus.
Sitôt consommé, sitôt jeté.
Sitôt jeté. On doit changer d'habitude. On doit savoir que ça, non seulement on doit récupérer, avoir le réflexe de mettre dans une poubelle, mais pas une poubelle avec les autres ordures, si on veut vraiment traiter la question du plastique.
Oui, mais il faut qu'il y ait des poubelles. Je ne vois pas de poubelle ici.
Justement, il n'y a pas de poubelle pour le moment. C'est comme si la sensibilisation n'est pas passée. C'est comme si on n'est pas encore arrivé à ce stade où on amène la population à s'organiser pour récupérer le plastique, pour ne pas que ça se retrouve dans l'environnement.
Mais qui devrait installer des poubelles ici ?
En général, quand on dit qui, on pense à l'État, mais nous avons tous un rôle à jouer. Tout citoyen, bien informé, bien sensibilisé à la question du plastique, doit pouvoir jouer un rôle. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis dans le marché et que je suis bien informé, je peux prendre sur moi, installer des poubelles uniquement plastiques et en parler à mes voisins, à mes voisines. Nous, dans nos activités que nous faisons, l'animation, c'est ce que nous disons, nous pouvons aller plus vite que l'État. Si nous nous organisons, nous pouvons aller plus vite que la loi et la réglementation.
Oui, parce que Alassane Ouattara, l'usage du plastique est réglementé en Côte d'Ivoire depuis 2013.
Oui, depuis 2013, nous avons eu un arrêté, mais qui n'est pas appliqué avec, dans toute sa rigueur. Et je crois qu'actuellement, tout le monde a pris conscience. Et ces derniers moments, on a vu que le nouveau ministre en charge de l'Environnement a réuni un certain nombre d'acteurs pour que ce décret-là soit appliqué.
Que dit le décret ?
Alors, le décret est relatif donc à l'usage des plastiques à usage unique. Au jour d'aujourd'hui, ce sont ces plastiques-là qui posent véritablement problème. Au niveau de la collecte et de la gestion, si pour les macroplastiques, les bouteilles sont facilement récupérables, mais pour les plastiques à usage unique, c'est un véritable problème et cela cause de nombreuses conséquences à l'environnement.
Le décret dit interdiction d'importation, d'utilisation, d'achat, de production et de rejet dans l'environnement des plastiques à usage unique. Le décret a eu du mal à être mis en œuvre parce que l'État a été confronté à des milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur et qui sont venues dire « après ça, nous n'avons pas d'emploi ». L'année du décret, des interdictions, où des contrôleurs rentraient dans les marchés, ils récupéraient le plastique, mais il n'y avait pas d'alternative et ça n'a pas suivi. Donc on se dit, si on ne peut pas interdire, quand même informer la population qu'il faut récupérer le plastique pour ne pas que ça se retrouve dans l'environnement et aussi il faut commencer à penser aux alternatives.
Alors là, nous rentrons dans le marché, une grande halle couverte. Donc là, par exemple, le pain est sous une énorme bulle en plastique.
La pluie ne touchera pas sa marchandise. Elle est rassurée. Par contre, si c'était du papier, le papier serait mouillé. Donc, l'importance du plastique a encore de la place dans les marchés pour nos populations.
Oui, mais là, il n'y a pas de pluie. Donc, c'est une habitude où tous les jours, ils font des cloches en plastique comme ça au-dessus du pain, alors que peu importe la météo, finalement.
Oui, j'ai parlé de la pluie, mais vous voyez, ça protège contre les mouches. Nous sommes dans un pays tropical, on a beaucoup d'insectes. Ça protège contre tous les rejets, la saleté et tout ce qui peut venir se déposer sur sa nourriture.
Mais rien ne peut remplacer ça, du coup.
Pas vraiment. Parce qu'ils ont déjà utilisé le plastique pour remplacer. Il faut que ce qu'on utilise puisse donner les mêmes satisfactions. Vous voyez, il y a les bassines en plastique, il y a les sachets. Mais en plus, quand vous payez sa marchandise, elle va emballer dans un sachet transparent, léger. Mais elle va vous donner le sac noir que vous allez utiliser comme un sac pour transporter. Dès que vous utilisez la marchandise, vous jetez à la poubelle avec les ordures ménagers. Et ce qui n'est pas bon. Vous entrez dans le marché, vous allez voir les femmes qui vendent la tchéké, qui est le couscous fait à base de manioc.
Alors là, il y a des femmes qui ont des bassines, qui fument d'ailleurs, et c'est elles vendent le couscous de manioc. Voilà. Bonjour mesdames.
Le plastique est l'élément idéal parce qu'il ne doit pas avoir trop d'oxygène dans la tchéké.
Mais donc là, c'est pareil, c'est très difficile à remplacer parce que finalement, la tchéké, qui est cette semoule chaude qu'elles mettent encore dans le plastique, d'ailleurs, ça doit peut-être poser des problèmes sanitaires, non?
Oui, je pense que ça doit poser des problèmes, les scientifiques nous diront. Et nous, les scientifiques de Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'investigations à faire encore sur la relation entre le plastique et nous et notre consommation.
Oui, parce que Alassane Ouattara, mettre des aliments chauds dans du plastique comme ça, ce n'est pas très bon pour la santé.
Il y a quand même des risques sanitaires. Le plastique, c'est un dérivé, j'avais dit, du pétrole, auquel on a ajouté des additifs chimiques. Et la tchéké que vous voyez produit donc la chaleur, vous voyez la chaleur actuellement, le mettre en contact avec un produit à base de dérivés pétrole, il y a quand même des risques sanitaires possibles.
Donc les personnes qui achètent cette tchéké dans les sachets plastiques n'ont pas conscience du tout de cela?
Non, aujourd'hui donc on vit dans le plastique, on vit avec le plastique et donc notre perception, notre relation avec le plastique pour le moment, c'est nous rendre service, le plastique nous rend service.
Rachel, les Abidjanais, les Ivoiriens globalement, parce que c'est vraiment un plat traditionnel de Côte d'Ivoire, mangeaient de la tchéké avant qu'il y ait du plastique. Donc comment on faisait avant?
Avant, on le mangeait dans des feuilles d'attiéké. Mais la production n'était pas aussi à l'échelle. On n'était pas aussi nombreux. Ça se faisait, c'était une nourriture de proximité. Mais maintenant, de plus en plus, la population a augmenté. On déplace l'attiéké sur des distances pour arriver à la maison, pour consommer, pour garder. La tchéké peut se manger sur 2 mois, 3 mois, quand c'est conservé au réfrigérateur, au congélateur. Et donc, ça reste dans les plastiques. Pour le moment, le plastique est le meilleur emballage pour la tchéké.
Et il est expédié dans le monde entier sous plastique?
La tchéké est expédiée dans le monde entier, dans les voyages. Tout voyage ivoirien, vous verrez des boules de tchéké dedans. On va aller voir un monsieur qui vend les emballages plastiques que l'État avait tenté d'interdire. Celui qui vend à toutes les femmes, le commerçant du marché, elles vont se fournir avec lui.
Allons le voir.
Donc ici, nous avons un vendeur de plastique à usage unique. Lui le fait en détail, il le prend en gros. Vous avez les tout petits pour conditionner directement la nourriture. Et ceux-là qui vont servir d'emballage.
Les sacs en plastique noir.
Qui vont servir de sacs. Et lorsque vous payez plus de marchandises, vous aurez les plus grands.
Les bleus.
Les bleus.
Donc il y a les petits sacs blancs dans lesquels on emballe la tchéké, les petits sacs noirs dans lesquels on emballe plutôt ce qui est sec.
Oui, noir, il y a beaucoup de couleurs, noir, blanc, vert. Et ils sont plusieurs comme ça dans le marché. Et c'est ça que l'État a essayé d'interdire. Mais c'était une perte d'emploi pour lui. Et les dames n'avaient pas de quoi conditionner les marchandises. Et nous-mêmes, quand on venait au marché, on était face à cette difficulté. Et il y a des personnes qui n'étaient pas informées, qui se disputaient avec les commerçants parce qu'ils n'avaient pas d'emballage de leurs marchandises. Donc aujourd'hui, si on ne peut pas interdire ça, vous voyez pourquoi le problème du plastique demeure. Tous ceux qui fréquentent le marché en une journée, on ne peut pas leur dire après, retirez ça à part, mettez à part. Et quand ils mettent, ils ne séparent des autres ordures, qu'est-ce qu'ils en font ?
Mais alors nous avons fait des reportages dans d'autres pays, je pense au Tchad par exemple, où il y a des sachets de substitution qui étaient proposés à partir de tissus ou d'autres matières que le plastique. Pourquoi ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des nouvelles filières comme ça qui proposent des produits de substitution ?
Les produits de substitution ont été proposés dans les supermarchés, dans les boulangeries et les pâtisseries. Mais je vous dis que la qualité est encore à améliorer. Lorsque vous utilisez les sacs en papier, là, ça se déchire. Votre marchandise se retrouve à terre. Et c'est une opportunité pour tout homme d'affaires économiques qui peut produire des plastiques ou bien des contenants transparents qui peuvent jouer ce rôle à partir de matières premières végétales qui peuvent se dégrader. C'est une opportunité.
Alors, les plastiques que vous avez vus ici, on les retrouve soit, j'allais dire, dans les décharges, soit dans les canaux de drainage des eaux pluviales et des eaux usées. Et le réservoir, le réceptacle, ce sont les eaux lagunaires, les eaux marines. Et là où l'activité de pêche se pratique, et là nous irons voir les pêcheurs et pour avoir leur opinion sur le plastique.
Donc là nous allons aller voir les pêcheurs, c'est loin d'ici ?
Alors c'est relativement loin, on a encore une trentaine de minutes pour aller du côté des Zimbabwe.
Zimbabwe, mais en Côte d'Ivoire ?
Oui, c'est un quartier de pêcheurs qu'on appelle Zimbabwe.
Ok. Eh bien, allons-y.
Créateur.
Alors Kone, bon alors ouais. Je m'apprête à prendre le pont.
Ouais.
Donc je serai à toi dans une quinzaine de minutes maximum.
Ok, je suis là.
Merci beaucoup Kone.
Ça y est Alassane, là nous sommes enfin arrivés à la coopérative de pêcheurs. Nous sommes où là exactement ?
Là, nous sommes du côté de Vridi, Zimbabwe, et précisément, j'allais dire, au niveau de l'association des pêcheurs de la zone, pour rencontrer le président de la coopérative pour qu'il nous parle un peu de leur perception du plastique dans leurs activités, leur utilisation du plastique et les conséquences du plastique sur la pêcherie.
En tout cas, là, nous sommes donc au bord de la lagune et nous voyons sur les berges entassées des quantités impressionnantes de plastique. Il y a des sacs, des bouteilles, des grandes bouteilles, des petites bouteilles, des barquettes en polyester. Enfin, c'est le paradis du plastique ici.
Et là, vous avez un échantillon des catégories ou des familles de plastique que vous avez ici. Vous avez des PVC, vous avez des polyester, vous avez des polyéthylène tétraphtalate. Vous avez tous ces plastiques-là ici. Et vous voyez, quand vous les regardez, vous avez des bouteilles qui sont fermées. Sur ces bouteilles-là, vous avez des colonies de micro-organismes. Et ces micro-organismes-là, très souvent, sont aussi contaminés par le plastique. Et ils sont consommés par broutage par des poissons. Et vous pouvez imaginer un peu, dans la chaîne alimentaire, les impacts. Le plastique que vous voyez, il provient soit des activités qui sont autour ici, mais il provient aussi, j'aurais dit, des canaux, du système d'assainissement, d'évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales. Et vous voyez, là, nous sommes là, il est actuellement 11h15, la forte insolation et les activités, les mouvements de l'eau vont faire que ce macroplastique sera fragilisé et sera sous forme de microplastique qui peut être aussi en flottaison ou bien être dans le sédiment. En flottaison, tous les organismes aquatiques qui filtrent l'eau peuvent les ingurgiter et les retrouver dans le tube digestif. Et si on prend, certains poissons comme les sardinelles sur lesquels nous travaillons actuellement, qui sont non seulement consommés par la population, mais qui servent de proie pour capturer les thons. Donc c'est pour dire que ces poissons, les sardinelles qui consomment, tout ce qui est en suspension dans l'eau, ça peut être des micro-algues, mais ça peut être aussi des débris de plastique. Et on les retrouve donc dans le tube digestif. Et ces sardinelles, certains sont mangés frais, certains sont fumés. Donc notre approche ici, c'est de voir au niveau des poissons frais et au niveau des poissons fumés, quelle est la quantité de contaminants qui provient donc des plastiques.
Quand le poisson est fumé, c'est encore pire.
Alors, on peut supposer que c'est en le cuisant que certains produits peuvent être relargués, relâchés dans la chair du poisson. On peut supposer que la chaleur peut augmenter la contamination du poisson, de la chair du poisson qui est consommée.
Et la contamination avec quoi ?
En termes de produits qu'on pourrait retrouver dans le poisson, il y a des additifs du plastique comme les phtalates. Nous allons rechercher préférentiellement les phtalates parce que ces phtalates sont connus pour être des perturbateurs endocriniens et qui pourraient avoir des conséquences sur la santé humaine.
Quel type de conséquences ?
Alors, selon la littérature, on peut avoir des problèmes d'infertilité, on peut avoir des problèmes de cancer. C'est autant de choses qu'il va falloir rechercher et pouvoir attirer la sonnette d'alarme et faire en sorte qu'on puisse, faire connaître ces résultats-là à la population et aux décideurs pour que, de façon synergique, des solutions soient proposées et que ces solutions soient transformées en actions.
Si nous sommes venus jusqu'ici, Alassane, c'est pour rencontrer les pêcheurs. Alors, avec qui avons-nous rendez-vous ?
Nous avons rendez-vous avec M. Kone Kassoum, qui est le président ici de l'association Yaïd des pêcheurs, qui va nous présenter l'activité et nous dire quels sont les impacts du plastique sur son activité.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Ok, je suis M. Kone Kassoum, président de la société coopérative Kapamsi, sur le site duquel nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes spécialisés dans la pêche artisanale maritime. Et je suis également vice-président de la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteur de la filière pêche de Côte d'Ivoire.
Vous avez combien de pêcheurs dans votre coopérative ?
C'est un peu variable hein, parce que c'est en fonction des saisons, mais la moyenne c'est autour de 100, 110, 113. Voilà. Et ces pêcheurs sont en majorité des non-nationaux, voilà, particulièrement en majorité des Ghanéens. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont plus aguerris dans le système de pêche artisanale qui est pratiqué chez nous ici, au niveau de la mer.
Plus que les Ivoiriens ?
Oui, les Ivoiriens, c'est plus en lagune.
On va peut-être un petit peu s'éloigner parce que ce bruit de moteur, au bout d'un moment, va nous fatiguer. Est-ce que les pêcheurs trouvent souvent du plastique dans leur filet ?
Beaucoup de fois, surtout quand ils pêchent vers les côtes. C'est beaucoup, mais en haute mer, le volume est très réduit. Et également, quand ils vont pêcher vers les plateformes, voilà, évidemment.
Les plateformes pétrolières ?
Les plateformes pétrolières, c'est vrai que c'est interdit, mais quand vous êtes dans un certain rayon des plateformes, les déchets qui sont rejetés par les plateformes se retrouvent malheureusement parfois dans vos filets. En matière de déchets aussi, il faut dire qu'il y a des plastiques dont les gens ne parlent peut-être pas trop, ce sont les filets perdus. Heureusement, la Côte d'Ivoire interdit l'utilisation des filets en plastique. Mais malheureusement, comme partout dans le monde, il y a encore quelques brebis galeuses qui continuent de tricher un peu.
Vos filets sont en quoi, du coup, s'ils ne sont pas en plastique ?
En nylon.
Et le nylon, c'est du plastique ?
Bon, c'est différent de l'autre qui était là avant. L'autre, c'était vraiment... Malheureusement, il n'y a pas d'échantillon, sinon on allait vous montrer. Mais ça n'a même pas... C'est pas la même chose.
Et vous disiez que le plastique, ça fatigue les pêcheurs parce qu'il faut qu'ils vident tout le plastique qu'il y a dans leur filet et trier le plastique et le poisson.
Ça, c'est une évidence. Ils doivent trier. Et malheureusement, parfois, le plastique se retrouve un peu plus que le poisson en fonction des zones. Et bon, pour toi, tu as fait une grosse pêche, mais quand tu remontes, tu te retrouves avec des déchets plus que ce que tu dois capturer.
La pêche n'est pas bonne en ce moment ?
Par rapport à quelques années précédentes, il faut dire que le niveau a un peu baissé quand même.
Qu'est-ce que vous pêchez surtout ?
Ici, moi, ma coopérative est spécialisée dans la capture des poissons nobles, c'est-à-dire les mérous, les dorades, les carpes rouges et les tonidés. Voilà, ici, mais nous, on pêche plus à la palangre et donc on a moins de problèmes de filet que certaines coopératives.
Qu'est-ce que c'est la palangre?
La palangre, c'est une longue ligne où on met beaucoup d'hameçons qui sont alignés et on fait la pêche. Ce sont des pêches sélectives et nous-mêmes, nous sommes en train de nous battre pour développer plus ce type de pêche, la pêche sélective, plutôt que la pêche au filet qui ramasse un peu de tout.
Est-ce que vous formez les pêcheurs à la gestion du plastique? Parce qu'eux-mêmes en rejettent, j'imagine, avec les produits qu'ils consomment, notamment les sachets d'eau. Quand ils partent en mer, ils doivent partir peut-être avec des sachets d'eau.
Honnêtement, on n'a pas encore initié de formation. Mais dans nos projets, la formation sur la gestion des déchets de tous ordres, hein, mais en particulier le plastique, fait partie de notre programme d'activité au niveau de l'interprofession pêche.
Et comme il y a des nouvelles directives pour interdire la pêche durant les périodes de reproduction des poissons, ça peut peut-être être l'occasion de former les pêcheurs à ce moment-là, de les sensibiliser, notamment à travers des campagnes de ramassage de plastique. C'est quand ces périodes d'interdiction de la pêche?
Au niveau de la pêche maritime, c'est du 1er au 31 juillet de chaque année. Au niveau de la pêche industrielle, c'est du 1er juillet au 31 août.
Alassane, vous vouliez dire quelque chose?
Non, ce que je disais, c'est que tout à l'heure, il parlait de la consommation de l'eau dans les sachets. Et c'est des quantités énormes qu'ils emportent avec eux en mer. Et une fois en mer, les sachets sont jetés directement dans l'eau. Et je pense que l'activité de formation, la formation dans le domaine du ramassage du plastique serait donc une belle initiative de leur part.
Sur Terre aussi, il y a énormément de consommation de ces petits sachets d'eau.
Exactement. Et vous savez qu'on est dans un pays chaud et actuellement, il fait très chaud. C'est d'énormes quantités de sachets plastiques sont jetés après consommation. Et imaginez-vous, si quelqu'un a une activité intense sur le soleil, ce sera environ plus d'une dizaine de sachets qui seront consommés d'eau par jour. Et ça, c'est constitue donc de véritables déchets qui vont se retrouver soit sur la terre ferme, contaminer le sol, soit incinérer, contaminer l'atmosphère, soit drainer directement dans des zones sensibles comme les zones littorales et les zones marines et constituer, j'allais dire, un danger. Et ces plastiques-là, de par leur faible épaisseur, peuvent facilement devenir micro et passer dans la chaîne alimentaire. Et même certains poissons peuvent confondre les méduses que nous avons actuellement et s'étouffer. Donc c'est une menace, une conséquence des plastiques qui peut être la perte de la biodiversité au-delà donc de la contamination, j'allais dire, des poissons.
Et au passage, nous pouvons faire de la sensibilisation sur ces sachets d'eau qui restent souvent entreposés au soleil pendant des heures avant d'être vendus. Et là, il y a des inquiétudes aussi sur ce que l'emballage, le plastique, transmet à l'eau qui est bu.
On est sûr qu'il y a une réaction chimique probablement avec, j'allais dire, l'insolation, la forte quantité de l'eau. C'est vrai, mais le sachet est un dérivé du pétrole avec des additifs, avec l'augmentation de l'intensité solaire. Il est évident qu'il peut avoir des réactions avec l'eau contenue dans les sachets et exposer les populations à des risques sanitaires.
Donc écoutez bien, quand vous buvez ces sachets d'eau, vous buvez aussi du plastique.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leurs plus grosses recettes. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant leur sort. Leur priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi
le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je respire leur fumée. Je suis à bout de souffle.
je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, se foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Abidjan et nous faisons une émission sur l'importance de l'utilisation du plastique ici et ses conséquences sur la pollution, notamment de l'eau, mais globalement de tout l'environnement et aussi des personnes, hein, puisqu'on l'a vu, il y a des conséquences sanitaires. Et vous êtes notre guide, Alassane Ouattara. Là, nous poursuivons donc notre aventure après être allé au marché, après être allé au port. Nous avons rendez-vous avec une personne importante du point de vue des solutions, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des quantités énormes de plastique qui arrivent chaque année ici à Abidjan.
Effectivement, les statistiques que nous avons, c'est que déjà en 2018, c'était environ 300 000 tonnes de matières plastiques ont été importées en Côte d'Ivoire. Et le chiffre n'est pas, la tendance n'est pas baissière, elle augmente. En 2022, c'est environ 450 000 tonnes. Et quand on regarde le taux de ramassage qui est autour de 48%, et selon les statistiques, 20 à 40% se retrouvent, j'allais dire, soit incinérés, soit dans les décharges, et seulement 5% qui sont recyclés. Et on a ici, en Côte d'Ivoire, une association ivoirienne des valorisateurs de plastique, et aujourd'hui, nous allons rencontrer M. Brou, qui est le président de l'AIVP, qui est l'association ivoirienne des valorisateurs de plastique.
Qui nous attend juste à côté. Nous allons rentrer dans ce bâtiment, et M. Brou est là. Bonjour monsieur.
Bonjour, je suis Brou Aoua et je suis le directeur exécutif de l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques.
Alors que regroupe cette association ?
L'association regroupe les entreprises du secteur privé. Il y a les entreprises qui font la production d'emballages plastiques, de plastique. Donc les entreprises qui sont dans le secteur de la boisson par exemple, dans le secteur de la production de l'eau. Il y a également les entreprises du secteur de la distribution. On a également une autre catégorie d'entreprises qui sont les plastigistes. On constate qu'on a beaucoup de produits en plastique, notamment des chaises, des bâches, des seaux, des équipements. Et puis on a les entreprises du secteur du recyclage des déchets plastiques.
Donc l'objectif de l'association, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes se parlent pour limiter la circulation du plastique. Alors comment est-ce que vous vous y prenez ?
C'est cela, l'objectif de l'association, donc, c'est d'arriver à terme à zéro déchet plastique dans l'environnement.
Bon courage.
Merci beaucoup, mais on va y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on veut simplement faire comprendre à tous les acteurs qu'en réalité, plutôt que de jeter une bouteille en plastique dans un caniveau, c'est en fait une matière première pour une industrie, pour une entreprise. Donc comment on s'y prend ? Bien, on installe un certain nombre d'équipements pour faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, si vous allez dans certains centres commerciaux, vous allez voir qu'il y a des bacs de collecte de déchets plastiques. On a également des associations que nous encourageons à faire la collecte des déchets plastiques à des endroits bien précis.
Une fois que ces plastiques sont collectés, que deviennent-ils ?
Tout ce qui est plastique, par exemple du type PET, est compacté et exporté dans les pays qui en ont besoin pour la fabrication de divers objets. Après, ce que nous récupérons dans les caniveaux, dans la lagune, etc., sont utilisés en fonction de la nature du plastique pour pouvoir fabriquer, par exemple, des pavés.
Mais le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, vous disiez que dans votre association, il y avait des producteurs de déchets. Notamment, il y a l'entreprise Coca-Cola, qui aujourd'hui est reconnue pour être celle qui produit le plus de plastique au niveau mondial. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour enrayer la source de la pollution. Que vous disent ces interlocuteurs ?
Ces interlocuteurs, qui sont les membres fondateurs de l'AIVP, ont des stratégies qui sont bien planifiées. Par exemple, Coca-Cola, elle a prévu d'ici la fin 2025 l'intégralité de tout ce qu'ils utilisent comme matériel d'emballage soit recyclable, intégralement.
Vous voulez dire la bouteille de Coca-Cola va être 100% recyclable, mais recyclable par qui ? Parce qu'il faut des filières derrière.
Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on existe, en fait. Bon, vous avez cité Coca-Cola, mais je peux vous citer aussi, on a Nestlé, là, on a Unilever, on a Soulibra, qui est la plus grande entreprise qui est dans le domaine de la production des boissons. Donc, chacune de ces entreprises-là a une stratégie.
Alors, il y a la logique du pollueur-payeur. Alors, est-ce que ces entreprises, qui sont quand même à la base de la pollution, s'impliquent
dans la valorisation, dans la collecte?
Alors aujourd'hui, il y a le nouveau code de l'environnement, donc l'état de Côte d'Ivoire qui vient de passer. Et ce nouveau code-là consacre deux principes. Le premier principe, c'est celui de la responsabilité élargie du producteur. Ce qui veut dire que aujourd'hui, une entreprise qui met sur le marché un produit, il est responsable de la gestion de fin de vie de ce produit-là. Le deuxième élément de ce nouveau code qui est passé l'année dernière, c'est que les entreprises ont la possibilité de s'organiser pour pouvoir gérer pour leur compte ces emballages-là. Donc, notre association qui est créée depuis 2019 est aujourd'hui en très bonne discussion avec notamment le ministère qui est en charge de l'environnement pour que nous puissions être cet éco-organisme-là qui va gérer pour le compte de toutes les entreprises qui sont en tout cas dans la filière plastique, gérer ces emballages-là à leur compte. Dans tous les cas, à travers le système de l'économie circulaire, nous croyons qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont être développées. Donc il y a une prise de conscience qui est l'un des gros défis qu'il nous faut relever, mais le prochain défi qu'il nous faut aussi relever, c'est celui de la sensibilisation.
Évidemment que vous n'êtes pas seul à travailler, hein, vous l'avez dit dans ce programme, vous avez beaucoup de partenaires. Vous vouliez me présenter un de vos partenaires?
J'ai l'honneur de vous présenter le docteur Philippe Sechi, qui est directeur de recherche à l'IRD, qui est le co-coordonnateur du projet PADI, Plastique d'Abidjan, Devenir Impact. Avec lui, donc, je co-dirige le projet.
Bonjour.
Bonjour.
Le plastique, c'était votre spécialité à la base?
Pas du tout. Moi, je suis un spécialiste des milieux aquatiques peu profonds, du phytoplancton, des petites algues. Mais ici, en Côte d'Ivoire, quand on regarde un échantillon, ben, on trouve du plastique dedans. Quand on se promène sur la lagune, on voit du plastique partout. Quand on cherche à récupérer du sédiment, une fois sur deux, on n'y arrive pas parce que la benne à sédiments, elle reste coincée par des morceaux de plastique. Et donc, du coup, c'est là qu'est venue l'idée du projet PADI. Progressivement, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler, on a continué à accumuler de la bibliographie et c'est là qu'on a découvert un article qui indique que la lagune Ébrier fait partie des 20 écosystèmes aquatiques à l'échelle mondiale les plus pollués en plastique. Ça nous a beaucoup perturbés. On s'est aperçu à ce moment-là qu'on ne connaissait rien finalement de la filière plastique en Côte d'Ivoire et on s'est demandé comment il était possible que ce pays soit aussi pollué finalement par les plastiques. En novembre 2023, on a un collègue, Patrice Guillotreau, qui est venu nous rejoindre. Et lui, spécialiste de l'économie, ben il a fait son travail d'économiste et il a trouvé des bases de données auxquelles nous, on n'avait pas accès, qui ont montré que la Côte d'Ivoire, c'est un grand importateur de matières plastiques. 445 000 tonnes en 2019, je crois, ou 2020. Et on se dit, ah ouais.
Ça veut dire qu'il y a un énorme enjeu économique autour du plastique.
Il y a assurément un énorme enjeu économique. 445 000 tonnes et c'était en augmentation par rapport aux années précédentes. Il y a fort à parier que dans les années futures, le temps passant, ben, ces chiffres vont encore augmenter, que les industriels vont continuer à faire leur job, hein, à produire. À peu près 200 000 emplois directs qui seraient associés aujourd'hui à la filière plastique en Côte d'Ivoire. Le même Patrice Guillotreau nous a indiqué des chiffres qui montrent qu'au fur et à mesure que l'importation augmente, la transformation également augmente et donc le nombre d'emplois directs augmente également. Donc il y a une vraie économie autour du plastique ici en Côte d'Ivoire qui rend complexe finalement la position de chercheurs qui ont à la fois l'intérêt, l'envie, l'ambition de protéger les écosystèmes, de les nettoyer, de les préserver d'une façon ou d'une autre, tout en ayant aussi la nécessité de concevoir l'importance du développement des pays, en passant en premier lieu par leur développement économique. Donc il y a une espèce de contradiction qui est très forte. Moi, ça tombe bien, je suis libre de ma parole, j'ai le droit de ne rien dire, donc je ne dis rien. Mais nos collègues ivoiriens et autres, M. Brou de la IVP, Alassane, universitaire, c'est eux qui ont vraiment ça sur les épaules et c'est très compliqué.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, bonne journée.
Comprendre justement comment le recyclage des déchets plastiques crée des emplois en Côte d'Ivoire, nous reprenons la voiture pour aller à la rencontre de ceux qui les ramassent.
Au fait, le problème à Abidjan, c'est que c'est un problème d'incivisme dans la conduite. Est-ce qu'on prend le risque de prendre où il y a l'incivisme ou on prend la grande voie? Mais bon, on va prendre la voie où il y a beaucoup d'incivisme et puis voir ce que ça va donner. S'il n'y a pas de ralentissement, on va applaudir avec les deux mains. Ah, mais c'est bon pour le moment, on espère, on croise les doigts.
On applaudit ou pas alors?
Non, on n'a pas encore fini. Il nous reste 350 mètres. Comme ça, on est sûr. Ah, ben voilà, on va applaudir. Hein. Je pense qu'on a fait le bon choix.
Nous sommes arrivés sur le lieu où il y a des ramasseurs qui collectent les déchets. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter.
Bonjour, je suis Bambam Mamadou, gérant de l'unité de valorisation des déchets plastiques, Univalplast Africa.
Donc vous avez une petite entreprise?
Oui, oui.
Vous êtes combien?
Actuellement, nous sommes 22 personnes.
Alors là, le bruit que nous entendons, ce sont des gens qui travaillent avec vous, qui remontent un énorme sac qui est plein de bouteilles en plastique que vous avez ramassées ici, donc dans le fond de ce bassin qui aujourd'hui est vide, puisque nous sommes à la période sèche, mais qui, quand il y a des pluies, est totalement inondé.
Déjà, vous voyez les filets font au moins 80 kg. Donc si on multiplie 80 kg par 7 filets remplis, ça nous fait 560
kg de bouteilles en plastique que vous avez ramassées aujourd'hui seulement.
Exactement.
Oui, Alassane?
Oui, c'est impressionnant de voir la quantité, j'allais dire, de bouteilles qui s'échouent ici et voir, la difficulté dans laquelle les travailleurs ramassent les plastiques.
Et je voulais vous poser une question parce que je vois que vous ramassez essentiellement les bouteilles. Pourquoi?
Nous sommes sur un projet avec la Fondation Coca-Cola qui nous finance depuis un an. Voilà, nous sommes à la deuxième année du projet, qui nous a demandé de collecter au moins 300 tonnes de bidons plastiques, de déchets PET plastiques, et pour la deuxième année jusqu'à 400 tonnes. Donc c'est avec Coca-Cola que nous avons un accord, de commun accord, j'ai souhaité de collecter les bidons PET. Voilà. Sinon il y a d'autres types de plastiques, c'est-à-dire les HD, les polyéthylènes haute densité, basse densité, les sachets plastiques, et puis les PVC, il y en a plusieurs autres. Si vous étiez peut-être allé au labo, vous allez voir qu'il y a tout type de déchets plastiques au niveau du labo, à l'unité de valorisation. Et là-bas, nous trions et nous faisons les traitements. Il y a certains, nous les mettons en balle pour pouvoir les envoyer dans d'autres chaînes de valeur. Et il y a d'autres que nous-mêmes nous transformons en des matériaux de fabrication, de construction, tels que les pavés.
Vous avez un gilet jaune de sécurité sur lequel il est écrit Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques. Et au-dessus, il y a un logo Coca-Cola. Coca-Cola est connue pour être dans le monde l'entreprise qui met le plus en circulation de bouteilles en plastique. Alors là, on entend toujours les bruits des ballots de plastique qui roulent autour de nous. C'est bien de financer le ramassage et le recyclage, mais pour autant, Coca-Cola continue à vendre des bouteilles en plastique en Côte d'Ivoire.
Ah oui, exactement, ça continue. Mais c'est pourquoi les projets durent plusieurs années. Voilà, nous continuons toujours à ramasser. C'est-à-dire que nous, tant qu'il y a les PET dans la nature, nous sommes prêts à toujours collecter pour assainir notre environnement avec l'appui de Coca-Cola et l'AFP.
Votre intérêt, du coup, finalement, c'est qu'un maximum d'amis de Janet boivent du Coca-Cola pour que vous ayez un maximum de bouteilles en plastique à ramasser pour alimenter le recyclage. Ils sont malins, Coca-Cola.
En fait, ils doivent dire qu'ils sont malins. Ben, de toutes les manières, ils offrent peut-être quelque chose aux habitants qui consomment. Et nous, nous sommes là pour pouvoir récupérer. Voilà.
Et vous gagnez bien votre vie avec ce système? Ça vous rapporte de l'argent?
Oui, ça nous permet de pouvoir valoriser les différents déchets. Parce que, hormis le fait que nous accompagnons avec peut-être de l'argent pour pouvoir payer les agents qui sont là, ils nous ont même offert un véhicule. Ça, c'est la Fondation Coca-Cola qui nous a offert ça. Il y a aussi un compacteur qui est au niveau du labo qui nous ont remis. C'est ce compacteur-là qui nous permet de compacter les différents bidons. Il y a la broyeuse qui est en cours de fabrication.
Tout ça est payé par Coca-Cola?
Tout ça a été payé par Coca-Cola. Voilà. La Fondation Coca-Cola.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alassane, je vais vous demander une petite réaction. Est-ce que nous sommes en train de voir ici?
On est impressionné par la quantité de déchets plastiques. On s'interroge. Quelle est notre perception, j'allais dire, de la pollution plastique. Le plastique est censé nous rendre service. Là, quand on le voit, il constitue un poison. Et vraiment, j'ai un peu mal au cœur de voir autant de déchets produits. Tout à l'heure, il a dit 500 kilos de plastique PET par jour, seulement PET. Si je multiplie par 365 jours, imaginez-vous la quantité collectée par an. C'est impressionnant.
Et juste par lui?
Juste par lui. Donc j'imagine les autres zones de collecte, quelles seraient donc les quantités uniquement pour la ville d'Abidjan? Et que dire de toute la Côte d'Ivoire?
Et puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, il faut expliquer que là nous sommes en période sèche, donc tous ces déchets plastiques qui sont dans le fond du bassin sont aujourd'hui sur la terre, mais dès qu'il pleut, ils sont en suspension et ils vont vers l'eau.
Oui, comme vous le dites si bien, aujourd'hui c'est la journée de l'eau. Quand on regarde tous ces plastiques qui sont dans un bassin versant, qui va directement jeter dans la lagune, on a le droit de se poser des questions. L'eau est un milieu de vie, mais l'eau peut devenir un danger pour la vie.
Ce genre de paysage ne vous décourage pas?
Mais vous savez, en termes d'intelligence, je suis pessimiste, mais en termes de volontarisme, je suis optimiste.
Comme Alassane Ouattara, que je remercie au passage de nous avoir accompagnés, nous sommes, comme il le dit si bien, pessimistes en termes d'intelligence. Car tant que les entreprises qui sont à l'origine de la production des déchets plastiques entretiennent le mythe d'un recyclage total, rien ne changera. Ce n'est évidemment pas un hasard si Awa Brou, le directeur exécutif de l'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques, que vous avez entendu dans ce reportage, est un ancien cadre de Coca-Cola. Coca-Cola est le pire pollueur plastique du monde, avec 120 milliards de bouteilles en plastique produites chaque année. En attendant, chacun a un rôle à jouer. Ne jetez pas vos déchets n'importe où, vous l'avez compris, ils finiront immanquablement dans l'océan. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce reportage en vidéo sur nos réseaux sociaux où nous adorons échanger avec vous. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.